Professeur, bonjour.
Bonjour.
La situation sécuritaire de l'air vous préoccupe au plus haut point. En résumé, quel est votre point de vue par rapport à ce que nous vivons jusqu'à présent?
Écoutez, mon point de vue est clair et net. Pour le moment, la République démocratique du Congo est en guerre. Les faits les prouvent sur le terrain. Les rapports des Nations Unies démontrent clairement l'implication des forces armées du Rwanda dans cette guerre. La République démocratique du Congo a prouvé plus d'une fois que les forces armées du Rwanda sont sur le territoire congolais. Alors, pour moi, il n'est plus question de se poser mille et une questions. La République démocratique du Congo, en tant qu'État souverain, a le droit de faire la guerre, notamment le droit d'organiser sa légitime défense, soit individuellement, soit avec ses alliés, conformément à la Charte des Nations Unies. Et donc, il n'est plus question ici de tergiverser. S'il faut bombarder le Rwanda, il faut le faire, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que le Rwanda continue à nous faire un sale jeu. Il nous agresse, après il nie tout en bloc, il nous agresse, il met des Congolais, des traîtres Congolais au devant de la scène pour dire non, ce sont des Congolais, pourtant c'est le Rwanda qui est derrière ces traîtres Congolais. Et donc, on ne peut plus continuer à blaguer, à tergiverser, à faire des communiqués, à se plaindre auprès des instances internationales. Il est question maintenant de nous défendre comme un État souverain. Un État souverain ne se plaint pas. Un État souverain agit. Il pose des actes pour protéger sa souveraineté, pour protéger son intégrité du territoire, pour protéger son indépendance politique. Et donc, moi, j'invite le gouvernement, j'invite nos vaillants FARDC de tout mettre en œuvre, de s'équiper comme il se doit, parce que nous avons les moyens. La République démocratique du Congo a des moyens de loin plus que le Rwanda. Nous devons démontrer que nous avons ces moyens
en homme,
en matériel, en renseignement, ainsi de suite. Je ne suis pas militaire. Moi, je suis juriste, internationaliste. Je parle en tant que juriste, en tant que citoyen. Notre nation est en danger. Nous devons nous mobiliser. D'ailleurs, le président de la République nous a déjà invité à la mobilisation générale. Et donc, nous restons mobilisés pour faire face à la situation.
Mais vous savez que le Rwanda pourrait se plaindre d'agression, énième agression. On sait avec les génocides. Est-ce que vous ne craignez pas que cela soit le cas s'il faut vraiment déclarer la guerre au Rwanda?
Et d'ailleurs, cette question de déclarer la guerre est dépassée. Il n'est pas ici question encore de déclarer la guerre, il est question de réagir dans le cadre de la légitime défense. Nous réagissons à une agression, donc c'est une légitime défense.
En bombardant le Rwanda.
Comme le Rwanda nous attaque, nous tue, nous massacre, nous devons réagir pour mettre fin à cette situation. Le génocide, le Congo n'a jamais eu des intentions de génocide. Nous sommes 450 ethnies au Congo. Il n'y a jamais eu de conflits ethniques du genre auquel on a assisté au Rwanda en 1994. Et d'ailleurs, le peuple rwandais doit demander pardon à l'humanité pour ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas comprendre comment un peuple peut se mettre à s'entretuer comme ils l'ont fait, même s'ils disent qu'ils ont été poussés à le faire. Et même si on vous poussait, vous allez vous entretuer de cette manière-là. Les Congolais ne sont pas génocidaires. Les Congolais aiment la vie. Les Congolais aiment la musique. Ils aiment la bonne vie. Ils aiment s'habiller. Ils aiment manger, boire. Ils aiment la musique. Ils aiment danser. Ça, c'est les Congolais. Non, pour les femmes, tout le monde aime les femmes. Je ne connais pas un seul homme
qui n'aime pas les
femmes. Qui dit que lui n'aime pas les femmes.
C'est passé des femmes.
Tout homme aime les femmes. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a que des Congolais qui aiment les femmes. Oui, je sais. Et on a toujours accusé les Congolais de cela. Et pourtant, les Congolais sont comme tous les êtres humains, à l'exception de la haine, de la cruauté, de la méchanceté. Les Congolais n'agissent jamais de cette manière-là. Les Congolais ne sont jamais méchants. Les Congolais sont des gens bien, sont des gens gentils, sont des gens civilisés. Les Congolais ne peuvent jamais se mettre à s'entretuer entre eux. Nous connaissons.
Ils n'ont pas le goût du sang.
Ils n'ont pas le goût du sang, les Congolais, quand ils se retrouvent à l'étranger, même s'ils ne se sont jamais connus. Mais le fait simplement qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous Congolais.
Ils se partagent un peu.
Mais directement, ils deviennent amis, ils deviennent frères, sœurs, ainsi de suite.
Pas de poison, rien.
Jamais de la vie. Ça, c'est une autre culture. Pas du tout, pas une culture congolaise. Et donc, on ne nous amène pas sur ce terrain-là parce que nous ne connaissons pas cette pratique-là. Et pourtant, chez nos voisins, depuis des millénaires, ils ont vécu de cela. Ce n'est pas la 94 n'est pas la première fois que les Rwandais s'entretuent. Ce n'est pas la première fois. Ils ont toujours vécu ainsi. Et pourtant, au Congo, on n'a jamais connu ce genre de pratique. Voilà.
Professeur, les déclarations du conseil, des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont séjourné à Kinshasa vous ont interpellé et vous les avez traités de menteurs.
Oui, mais le Conseil de sécurité arrive au Congo, ce n'est pas d'abord la première fois. Le Conseil de sécurité connaît la situation qui prévaut au Congo. Le Conseil de sécurité a pris plusieurs résolutions sur ce qui se passe au Congo, donc il connaît la situation. Le Conseil de sécurité dispose de preuves tangibles de l'implication du Rwanda dans l'insécurité ou dans le conflit qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Tout montre clairement que le Rwanda est sur le territoire congolais, il mène des opérations militaires et paramilitaires, forme des rebelles qu'on fait passer pour des rebelles congolais alors que ce sont des Rwandais. Ils cherchent à prendre nos territoires, ils exploitent même nos ressources dans ces coins de la République. C'est connu de tous, ce n'est pas un secret, ce n'est pas nouveau du tout. Et donc, le Conseil de sécurité devait plutôt aller dans le sens de qualifier les faits conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, notamment les articles 39, 40 et 41. N'est-ce pas? Ce que fait le Rwanda constitue un acte d'agression, mais également de menace à la paix et de rupture de la paix, parce que dans ces coins de la République, vous trouvez des déplacés qui vivent dans des conditions infrahumaines. Et ça constitue une menace à la paix. La présence des forces armées rwandaises sur le territoire congolais et leur implication dans l'insécurité qu'ils sèment là-bas constitue la violation des principes des Nations Unies, notamment la violation du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, notamment le principe du respect de l'indépendance politique des États, le principe de l'interdiction du recours à la force pour résoudre des différends, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, sur ce point-là, le Rwanda doit être condamné officiellement par le Conseil de sécurité. Et puis, le chef de la délégation du Conseil de sécurité, c'est un Français.
Jacques de la Rivière.
Jacques de la Rivière, qui n'a fait que relayer les points de vue de son président qui venait de passer par ici. Et donc, ça ne nous étonne pas que le chef de la délégation du Conseil de sécurité, ce Français, vienne relayer simplement les points de vue de son président. Et donc, on se rend compte que c'est de la politique. La politique veut dire qu'il n'y a pas des critères objectifs dans ce qu'ils disent. Donc, ils sont en train de rechercher leur objectif politique. Et ils démontrent par là qu'ils ne sont pas nos amis. Parce que s'ils étaient nos amis, ils allaient nous appuyer. Le fait que les Français refusent de condamner ouvertement l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, mais ça montre clairement qu'ils ne sont pas avec nous. Pourtant, l'Angola a toujours été présent. Chaque fois que le Congo a des problèmes, l'Angola nous est toujours venu à la rescousse. Ils les démontrent par leurs actes. Ils n'ont pas tergiversé. Et puis, laissez-moi dire une chose. La situation que nous vivons à l'est du pays, ce n'est que la conséquence de l'échec de l'opération turquoise concoctée par la France pour aider le régime décadent du président Habyarimana. Ce sont les Français qui ont fait pression au président Mobutu pour qu'il ouvre la frontière et qu'il fasse passer les réfugiés et même le régime rwandais en fuite pour qu'ils entrent au Congo. Ce sont les Français qui ont créé cette situation. Et les Rwandais ont bombardé les camps de réfugiés pour les disperser. Le Conseil de sécurité, connaissant l'affaire, n'a jamais rien fait contre le Rwanda. Et donc, la France ne peut pas, et la communauté internationale, ne peuvent pas nous faire porter une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Nous sommes en train simplement de payer les conséquences de l'échec de l'opération turquoise menée par la France. C'est la France qui est responsable de ce qui se passe à l'est du pays aujourd'hui. Nous ne devons pas l'oublier. Nous devons avoir présent à l'esprit que ce que nous vivons aujourd'hui vient de l'opération turquoise. Et donc, la France doit s'assumer. Le gouvernement congolais doit demander des comptes à la France. La France doit s'assumer, doit assumer ses responsabilités de l'échec de son opération turquoise. Et ils ne peuvent pas abandonner le fardeau de l'échec de cette opération au peuple congolais. Nous sommes simplement victimes. Et puis, ce n'est pas la première fois que la France agisse ainsi. Après avoir colonisé le Vietnam, au moment de l'indépendance, les Vietnamiens ont réclamé leur indépendance, ils ont pris toutes les dispositions, ils ont chassé les Français. Et les Français, coincés par les Vietnamiens, ont fait appel aux Américains, des alliés. Une fois les Américains sur le terrain, les Français ont pris la fuite. Ils ont pris la poudre d'escampette. Ce n'est pas la première fois que la France agisse ainsi. Donc c'est dans les habitudes des peuples français. Et les Français ne peuvent pas nous donner une leçon de bravoure. Et même n'ont jamais été braves. Plusieurs fois vaincus par leurs voisins allemands. La France ne peut pas nous donner des leçons de bravoure.
Professeur, pour dire aussi, quelle est votre réaction par rapport aux sorties médiatiques du ministre des Affaires étrangères, dont certains Congolais pensent que c'est des sorties ratées?
Oui, j'ai vu cette sortie du ministre des Affaires étrangères qui dit que la RDC se bat contre trois armées, ainsi de suite. Et les gens ont pris ça dans le sens que le vice-premier ministre, par ses propos, risque de démobiliser les troupes, ainsi de suite. Bon, je sais que le ministre des Affaires étrangères, qui est un homme connu pour son engagement politique depuis la Conférence nationale souveraine, c'est parmi les jeunes turcs de la démocratie au Congo. Depuis les années 90, M. Alphonse Lutundula a tout donné. C'est un homme franc, c'est un homme sur qui la République peut compter. Et donc, il ne peut jamais démobiliser les troupes. Je pense plutôt qu'il voulait dire que le fait pour la RDC d'affronter trois armées et de rester debout, n'est-ce pas, que la RDC est une puissance. La RDC a la capacité de résister devant des attaques et des ennemis. Pour preuve, la RDC résiste devant des armées, il n'y en a pas que trois. Il y a le Rwanda, il y a le Burundi, L'Ouganda qui est toujours...
On parle d'Érythrée.
Oui, qui est toujours proche du Rwanda. Il y a des groupes armés de toutes sortes, il y a des groupes terroristes de toutes sortes. Et donc, c'est au-delà de trois. Mais jusque-là, nous résistons et nous tenons bon. Et donc, nous devons rester mobilisés, nous devons défendre notre souveraineté et notre indépendance politique. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Ce que nous devons faire, c'est défendre l'intégrité et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo.
Professeur Raymond, pour tous ces Congolais qui ont souhaité vous entendre finalement.
Pardon?
Tous les Congolais qui ont aimé vous entendre, qui ont vraiment donné, présenté leur souhait de vous entendre sur ces dossiers, ces sujets d'actualité, vous comme internationaliste.
Oui, bon, je dis simplement que j'invite l'élite nationale à s'exprimer, à user de la liberté d'expression que nous offre notre Constitution. Je me rends compte que l'élite nationale se tait, se cache, a peur, je ne sais pas de qui, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, face à des questions d'actualité comme celle-ci, nous devons nous exprimer, nous devons dire au monde ce que nous pensons et surtout réagir contre les injustices dont est victime la République démocratique du Congo. Il faut le savoir, notre pays regorge de ressources énormes et donc nous sommes convoités par toute la communauté internationale, par toutes les grandes puissances. Nous sommes convoités. Ce sont nos richesses qui nous attirent tous ces conflits. Et donc, nous devons être avisés. Nous ne devons pas être naïfs. Nous devons savoir que le fait d'avoir ces richesses va toujours nous attirer des ennuis. Qui veut la paix, prépare la guerre. La RDC est une grande nation, c'est un grand peuple. Nous devons organiser notre armée, nous devons disposer d'une armée puissante, d'une économie tout aussi puissante pour faire face à toute situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, on ne sait pas qui viendra à nous. Mais il y a la guerre de l'eau. La guerre de l'eau est déjà à nos portes. Les autres qui n'ont pas l'eau, là où il y a les déserts,
le Tchad,
voilà. Mais ils viendront prendre de l'eau chez nous. Mais nous ne refusons pas de coopérer. Ceux qui ont du pétrole vendent leur pétrole à longueur de journée. Nous avons de l'eau. Nous allons vendre notre eau. Ils n'ont qu'à venir acheter. On ne refuse pas. On va leur vendre de l'eau, mais à partir de l'embouchure, là où l'eau va se jeter, pour que nous n'ayons pas de conséquences environnementales. Donc, les experts sont sur le dossier. Et donc, nous devons nous préparer. La RDC a des enjeux énormes. Si nous prenons seulement le plan énergétique, la construction du barrage Dinga jusqu'à la dernière phase va pouvoir donner 43 gigabytes d'électricité. Donc deux fois plus que le plus grand barrage du monde aujourd'hui. Le plus grand barrage du monde aujourd'hui, c'est le barrage de Trois Gorges en Chine. C'est 22 gigabytes d'électricité. Nous, on en aura 43, le double. Mais c'est une opportunité énorme. Et donc, nous devons être conscients des enjeux. En 2035, on arrête la construction de véhicules à essence. Nous migrons vers des véhicules électriques. Mais les minerais pour fabriquer les batteries électriques se retrouvent au Congo. Et donc le Congo sera comme tous ces pays qui ont du pétrole, qui se font de l'argent. Et donc le Congo aura de l'argent. Et nous devons être conscients. Et j'en appelle ici au patriotisme des membres de notre Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Parce que en tant que citoyen, en observant la scène politique congolaise, j'ai l'impression que notre Parlement ne nous aide pas beaucoup. C'est vrai qu'il contribue dans la production législative. Mais notre Parlement n'a pas que sa commission. Il a aussi la mission de contrôler le gouvernement et ses structures. Mais quand nous observons ce qui se passe aujourd'hui, on détourne là-bas aujourd'hui, demain on détourne de l'autre côté, ainsi de suite, qui est des millions, et on ne voit pas les parlements bouger, et ça nous attriste quelque part. Le Parlement doit jouer son rôle de contrôle, et non pas faire des contrôles de complaisance, faire les vrais contrôles. Voilà un peu ce que je voulais dire en tant que citoyen, usant de ma liberté d'expression garantie par la Constitution.
Merci à vous, professeur.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Jean.